Merci beaucoup Christophe d'être avec nous en direct par téléphone. Nous parlons de ton nouveau livre qui s'appelle « L'argent » qui est paru aux éditions Amsterdam. Afin de commencer cette discussion entre nous, quelle fut ton idée de départ ?
En fait, mon idée de départ était... je ne sais pas si on peut parler d'idée de départ. Disons que comme je ne comprenais pas grand-chose à ce qu'était l'argent et que autour de moi, je me rendais compte que personne n'était capable d'en donner une définition ni d'en faire une description qui pouvait améliorer ma compréhension de cet objet. Et bien, je me suis dit, voilà, je vais mener une sorte de petite enquête personnelle à ce propos, et j'ai commencé à prendre des notes sur cette question, en questionnant les gens qui étaient autour de moi, et en essayant d'observer comment ils faisaient, eux, avec l'argent, qu'est-ce que c'était que l'argent pour eux. Et puis voilà, j'ai essayé de trouver une manière de développer cette écriture en inventant cette espèce de dispositif qu'est ce livre, et de couler l'écriture là-dedans, et ça a donné ça.
Alors, voilà. Il pourrait s'agir donc d'une enquête, d'ailleurs, il s'agit d'une enquête que tu as menée sur de nombreuses années, c'est bien ça ?
Oui, c'est une enquête qui fait une espèce d'exploration, une enquête que j'ai commencé il y a 4 ans en réalité, et qui s'est arrêtée quand j'ai pu trouver finalement tous les personnages dont j'avais besoin et récupérer toutes les propos, les paroles, les discours dont j'avais besoin pour écrire.
Et alors, comment as-tu procédé pour mener cette enquête ?
Ouais, c'était assez simple. En fait, la description que je vais en donner est très simple. Comme je suis écrivain, on fait appel à moi pour des questions d'écriture. Un écrivain, c'est quelqu'un à qui on demande de l'écriture. Cette écriture peut prendre des formes multiples. Ça peut être des articles, ça peut être des conférences. Parfois, elle peut être... transformé en discours oral, parfois pas. En tout cas, on fait appel à un écrivain souvent pour de l'écriture, et souvent on fait appel à un écrivain contre de l'argent. Eh bien, ce que je faisais moi, c'est que je convertissais cette demande de la façon suivante, je la transformais en troc, je disais à la personne qui me faisait appel à moi, entendu, je veux bien vous donner une partie de mon écriture, mais au lieu d'accepter l'argent que vous me proposez, je vais vous demander, contre mon écriture, quelque chose qui ressemblera à une discussion d'argent, une discussion que vous allez accepter d'emblée en me faisant confiance, au cours de laquelle je vous poserai des questions parfois indiscrètes sur la façon dont vous faites usage de l'argent. Parfois c'était des discussions, en situation contrainte, en situation périlleuse, un peu scabreuse. Parfois c'était simplement des scènes auxquelles je demandais d'assister, par exemple une personne qui va chez son comptable. Parfois c'était des scènes où apparemment l'argent n'est pas présente de façon évidente, comme par exemple des séances de sport, des parties de piscine, des promenades, mais où en réalité l'argent s'immisce, puisque l'argent s'immisce partout. C'est un élément qui s'enchevêtre dans absolument toutes les pratiques que nous pouvons faire, et d'une certaine façon, toutes les pratiques que nous pouvons faire sont regardables déterminées par l'argent. Voilà. C'est comme ça que je procédais. Et alors, donc les personnes disaient oui ou non, acceptaient ou pas ce troc, et en général, quand elles acceptaient, elles se prêtaient au jeu plutôt bon gré, même si au cours du jeu, elles se rendaient compte que ça pouvait être périlleux, délicat. Mais voilà, et puis il y a eu ensuite quelques ajustements. Il y a des personnes qui m'ont demandé l'anonymation de certains passages du texte, ou en tout cas le floutage de certains éléments qui auraient pu les faire facilement reconnaître, etc. Voilà.
Il y a des rushs qu'on peut voir, notamment une vidéo où tu interroges Philippe Artière, oui. Qui est universitaire. Ça s'est passé à la Fondation Ricard. C'était lors de conférences que vous menez tous les deux à une même soirée. Et en fait, tu l'interviewais pour préparer ce livre, tu lui posais les questions que tu avais élaborées pour ton questionnaire, et cette vidéo existe sur Internet. Qu'est-ce qui s'est passé avec Philippe Artière ?
En fait, l'expérience avec Philippe Artière n'est pas du tout unique. Hein. C'est un élément, c'était une de mes stratégies d'écriture pour ce livre. Souvent, on me demande des lectures. On me considère parfois comme un poète. Et une des choses qu'on demande souvent aux poètes aujourd'hui, c'est de faire des lectures ou des performances. Et donc, dans ce cas-là, ben, je troque cette demande ou cette performance, je la troque contre. Je dis aux gens qui me posent la question, qui me font cette demande, écoutez, à la place de la lecture d'un truc que j'aurais déjà écrit, je vais vous proposer une sorte de performance où nous allons discuter tous les deux d'argent, où vous et un autre invité, enfin moi et un autre invité, et ce sera, à mon avis, plus intéressant sur le plan poétique. Et puis en plus, c'est plus rigolo puisque ce sera pas une chose déjà écrite, mais une chose qui sera probablement écrite à partir de cette expérience. Et donc, avec Philippe Artière, c'était ça qui s'était passé. J'avais proposé à Philippe Artière de discuter avec moi d'argent. Il avait gentiment accepté et nous l'avons fait en public, ce qui crée des entretiens intéressants puisqu'à le regard du public, il y a l'espèce de situation étrange qui consiste à faire des révélations intimes devant un public. Ça provoque une logique particulière dans l'échange questions-réponses. Mais cette situation-là a été archivée, enregistrée, archivée par la Fondation Ricard qui m'avait commandé la performance. Mais elle se reproduit plusieurs fois, 5-6 fois, peut-être même un peu plus, pour écrire le livre. Puisqu'on me demande assez souvent des conférences ou des choses comme ça à faire en public. J'aimais bien cette situation, même. C'est pas exactement toujours comme avec Artière. C'est toujours des situations où un regard extérieur est posé sur la personne qui parle et qui crée une situation d'échange contrainte où le mensonge n'a pas la même valeur, n'a pas le même statut, ou l'ironie, ou la manière de traiter son interlocuteur est biaisée par la situation de spectacle. Tout ça m'intéresse parce que je ne voulais pas, moi, proposer, fonctionner comme ce que j'avais vu, j'ai déjà été l'objet d'enquêtes sociologiques, et je vois comment les questions et la manière de procéder dans les entretiens s'effectuent. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de créer des situations où l'argent puisse apparaître de plein de façons différentes et où les discours d'argent puissent se donner de façon différente et absolument pas prédéterminée dans une orthodoxie méthodologique particulière.
Parce que tu as élaboré ton propre questionnaire, et ce questionnaire pose également des questions hétérodoxes, on pourrait les appeler de cette manière-là, c'est-à-dire des questions auxquelles on n'est pas forcément habitué et dont les réponses peuvent être assez étonnantes, puisqu'on va répondre à des questions qu'on ne s'est pas forcément posées soi-même et que tu poses dans une forme de dispositif qui n'est pas une enquête sociologique, justement.
Non, ce n'est pas du tout une enquête sociologique, c'est une sorte d'enquête non orthodoxe qui joue d'effet de surprise, qui peut être perçue par moments comme relativement maltraitante par certaines des personnes avec qui je l'ai fait. Mais aussi, il faut dire que, à la différence de précédents livres que j'ai écrits comme Les Berthiers, le livre sur la prise d'otage de la maternelle de Neuilly, que j'avais fait aussi, comme beaucoup de mes travaux, à partir de questions que j'avais préconstruites, dans ce livre-là, je me suis rendu compte que le questionnaire était plutôt gênant. J'avais besoin de m'adapter aux circonstances. Et alors, ce qui se passait, c'est que j'inventais beaucoup de questions en fonction des réactions de mes interlocuteurs et aussi de la situation. Je ne posais pas les mêmes. Par exemple, je vous donne un exemple. Quand j'avais la chance d'avoir un public qui m'écoutait, comme c'était le cas, par exemple, avec Artière ou d'autres, une des questions que j'utilisais beaucoup, c'était des questions qui permettaient d'évaluer le public. Demandais à mon interlocuteur: vous pensez que les gens qui nous regardent sont plus riches ou plus pauvres que nous? À quoi vous voyez qu'ils sont riches? Est-ce que vous pensez qu'ils sont plus riches à Ricard que dans telle galerie du 18e arrondissement, etc. Vous voyez, qui permettait des sortes d'expériences en direct. Et surtout, moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire surgir des réactions chez les gens pour qu'il y ait de l'imprévu, en quelque sorte, et des situations d'argent nouvelles, des discours d'argent nouveau, imprévisibles pour moi, qui auraient pu surgir de la situation d'enquête en elle-même. Et ça se passait à chaque fois. Il y avait des gens dans le public qui protestaient, ou quand, par exemple, je disais « Ah, voyez, mademoiselle X, vous aussi, vous êtes aidée par vos parents, vous venez de m'avouer qu'ils vous donnent 500 euros par mois. Ben, vous savez pas, tous les gens sont aidés par leurs parents. Je suis sûr que c'est vrai pour le public. » Et là, il y a des gens dans le public qui protestaient, qui disaient « Non, non, nous ne sommes pas aidés par nos parents pour telle ou telle raison. » Et assez rapidement, des questions sur justement sur qu'est-ce que c'est que se faire aider par un parent, qu'est-ce que c'est qu'avoir un patrimoine, comment ce patrimoine intervient dans les revenus qu'on peut avoir, tout ça se remettait en question à ce moment-là, de façon inouïe, non fermée, en fait, et intéressante pour l'écriture. Alors, en fait, pour moi, c'est ça, écrire. Hein. C'est essayer de provoquer quelque chose de totalement inattendu et qui produit des effets de savoir vraiment imprévisibles.
Il y a un dispositif textuel, puisque il y a un classement par tranche de revenus. En fait, on commence par les plus bas revenus en début de texte et on termine par les plus hauts revenus. Ouais. Chaque personne est appelée par soit son vrai prénom, soit ouais. un prénom inventé, parce qu'on pouvait être sous pseudonyme. En fait, on avait le droit à une forme d'anonymat et d'utiliser oui. un pseudonyme. Et juste ouais. après, il y avait le revenu mensuel de la personne. Donc Exactement. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, Nadège 1640. Et bien Nadège voilà, 1640...
C'est... Moi, quand j'apparais dans le livre, j'apparais sous la forme Christophe 2400.
Oh, voilà.
Ou alors il y a d'autres personnages, des amis, je ne sais pas moi, Anne-Laure 1911, Olivier 1310, Jean-Marie 4506, etc. Effectivement, les personnages sont nommés ou étiquetés, si on peut dire, comme ça, de cette façon-là, systématiquement dans le livre.
Et alors, ce qui oui. est très étonnant, c'est que pour chaque personne, si on prend, je ne sais pas, Olivier 2400, par exemple, imaginons, eh bien, oui. Bien entendu, les autres personnes qui connaissent Olivier vont intervenir aussi dans cette partie. C'est-à-dire oui. qu'on va avoir tout un système de liens, parce que tu as Exactement. Essentiellement interviewé des personnes qui sont dans le champ de la poésie contemporaine, dans le champ oui. de l'art contemporain, donc un milieu quand même assez homogène, où si on connaît des personnes de ce milieu-là, eh bien, forcément, on se dit « Ah tiens, c'est un tel, ah tiens, c'est un tel, et puis il connaît un tel. » Et donc, ça crée tout un tissu comme ça, tout un réseau. Et c'est comme si tu donnais à voir aussi également un réseau et un milieu. Et dans lequel tu ajoutes ta propre vie, ta propre biographie, parce qu'on pourrait dire, on pourrait lire « Argent » également comme étant l'autobiographie de Christophe Anna.
Oui, alors là tu poses deux questions en une. Je vais répondre pour l'histoire du réseau. Oui, c'est vrai, cette histoire, si tu veux, ce système d'indexation me permettait de traiter ma population, si je peux dire, ma population de personnes-personnages, en masse. Tu vois, au lieu de faire comme ce qui est souvent le cas dans les romans, où il y a des personnages principaux, secondaires, etc., moi, ce qui m'intéressait, c'était de traiter des masses de personnages, pour avoir une sorte de saisie d'une totalité que j'appelle argent. Et ce système d'indexation permet de connecter des personnages dans un filet, dans un réseau, comme ça. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il leur donne une pondération. Parce que souvent, on pense les réseaux, l'imaginaire du réseau, en tout cas, moi, avant d'écrire ce livre, je voyais le réseau comme quelque chose d'horizontal. D'ailleurs, souvent, les gens qui pensent en termes de réseau, comme par exemple Boltanski, ils l'associent à la question de l'horizontalité. Je dirais que c'est à moitié vrai. C'est horizontal, mais c'est pondéré. Ce serait comme un filet dans lequel il y aurait des cailloux plus ou moins gros accrochés dessus, tu vois. Ou un filet de trapéziste où il y aurait des obèses et des maigrelets, et il y a des endroits où ça pèse plus que d'autres, tu vois. Ça fait des trous, des bosses plus ou moins profondes selon le poids. Et l'indexation avec les revenus donne cette vision-là du réseau, avec des éléments... des éléments où c'est plus lourd quoi, que d'autres. Et le fait de les connecter comme ça syntaxiquement, quand je dis par exemple Olivier 4000 partage telle expérience avec Franck 2000 et Christophe 254, ça permet de connecter dans des pratiques, dans des activités, ou de mettre en relation des personnes dans des institutions significatives, des personnes qui peuvent apparemment être éloignées du point de vue de leurs relations financières, de leur groupe économique, si on peut dire, de leur capital économique, ou inversement, rendre visibles des effets d'accrétion d'identité économique ou de groupes sociaux de même niveau économique, à des endroits où on ne s'y attendrait pas. Voilà.
Et sur la question biographique ?
Alors, sur la question biographique, ça, c'est certain. Et ça vient du fait que j'écris en échangeant des informations d'argent. Une chose qui m'est apparue très vite, c'est que personne ne parle d'argent gratuitement. Et ça n'a jamais eu lieu. En général, c'est rare qu'on échange des informations gratuitement. Mais alors, en ce qui concerne l'argent, on ne le fait absolument pas gratuitement. Il y a toujours un intérêt derrière. Et le degré zéro de l'intérêt pour l'argent était d'échanger des informations d'argent. Par exemple, oui, vous me donnez mon salaire, mais je vous donne le mien. Vous me donnez votre salaire et je vous donne le mien en échange. Il y avait des effets dans les interactions et la production d'informations qui relevaient d'effets de don contre don comme ça. Il est à mon avis important de rendre compte de ça, puisque ça permet d'avoir une idée de la valeur de ce que l'on communique comme information en manifestant ce type d'échange. Et quand on exhibe ce type d'échange, eh bien, en creux, ça produit une certaine forme d'autobiographie, puisque je donne des informations me concernant, en remerciement ou en contre-don, on me donne les informations que je souhaite, et le livre sur l'argent s'écrit, exhibe des informations concernant l'argent de mes personnages, et en même temps, en creux, dit qui je suis, d'une certaine façon.
Parce voilà. C'est aussi... Il y a du Christophana dedans, mais il y a aussi toutes ces personnes à qui tu as posé tes séries de questions qui sont dedans et donc se posent la question de raconter leur vie à travers cette question assez fondamentale de l'argent. Combien ils gagnent, certes, mais oui. Qu'est-ce qu'ils font avec leur argent et qu'est-ce qu'ils pensent de leurs revenus, qu'est-ce qu'ils pensent des revenus des autres. Alors, je vais prendre mon cas. J'ai dit tout à l'heure en présentant le livre que tu m'avais interrogé. Donc je figure dans le livre. Moi j'ai choisi d'être sous pseudonyme, donc du coup on ne me reconnaîtra pas. Je peux parler de ma propre expérience en fait. C'était quelque chose qui s'était passé par téléphone. Tu m'as posé toute une série de questions. On a bien pris une demi-heure tous les deux. J'étais très étonné de tes questions, Christophe. Et quand j'ai lu la restitution, je me suis moi tout de suite immédiatement reconnu, bien entendu. J'ai trouvé que c'était fidèle, que je me reconnaissais moi-même, c'est-à-dire que tu ne m'as pas trahi. J'ai trouvé que ma parole, ou de ce que je m'en souvenais, parce que c'était déjà de nombreuses années avant, j'ai trouvé que je me reconnaissais. C'était presque mon ton à moi, ma manière de penser. Et j'imagine que tu as fait cela pour chacun des personnes que tu as interviewées, et elles sont vraiment nombreuses. Je ne sais pas, on est dans l'ordre peut-être d'une centaine de personnes tout de même.
Il y a une centaine de personnes qui disposent, enfin qui sont représentées sous cette forme de portrait et qui apparaissent dans le livre, dans un texte à eux, ou qui crée l'unité du portrait, c'est qu'à chaque fois que leur nom est mentionné, leur nom est en gras dans le livre. Il n'y a pas de titre, mais le nom, par exemple, je ne sais pas, je reprends un autre exemple, Olivier Catmull, à chaque fois qu'on est dans le portrait d'Olivier Catmull, Olivier Catmull apparaît en gras. Et alors effectivement, pour toi, Dominique, oui, tu as été un des premiers à avoir été interrogé pour des raisons qui sont liées à celles que j'ai indiquées, c'est-à-dire qu'il y avait des échanges de bons procédés, amicaux, littéraires entre nous. Et par exemple, j'aurais pu te demander un entretien d'argent contre celui que nous avons là. Ouais, ça serait fait partie du deal, ça aussi. J'aurais dit, d'accord Dominique, je veux bien participer à ton émission, mais tu acceptes en revanche, en retour, de me parler de ton argent. Alors, moi, je suis très heureux que tu te reconnaisses. Il y a eu qui ont été un peu choqués de se reconnaître là-dedans. Je pense que ça, peut-être, ça produit un peu le même effet qui est décrit par André Malraux au début de La Condition humaine. Tu sais, on entend sa propre voix dans un enregistrement magnétique et à la fois on se reconnaît et on se déteste parce que on dit. Ce qu'on dit de l'argent, c'est un peu ce qu'on dit de l'amour. On est toujours un peu bête quand on parle d'argent. Personne n'est intelligent quand on parle d'argent. Personne ne sait ce que c'est, personne n'a véritablement théorisé ce qu'il est capable de dire de ses usages de l'argent. La rationalité des usages de l'argent est quelque chose de comment on pourrait dire ça qui est à l'état incoatif, quoi, chez la plupart des gens, qui a à peine... C'est en général quand les gens parlent d'argent, ils produisent un discours qui est rarement un discours éprouvé. On n'en parle pas en public. Évidemment, on peut tenir des conférences d'économie, mais c'est pas parler de son argent que de faire ça. C'est parler de l'argent comme abstraction. Quand on pose des questions sur leur argent aux gens, ils disent c'est souvent des bêtises ou des choses qu'ils estiment bêtes, des choses qui sont triviales. Et ça donne, à la fois c'est très informatif, et en même temps, quand on se voit dire ça, on se dit bon sang, mais oui, mais j'aurais pu y réfléchir quand même un peu avant, tu vois, ce genre de choses. Mais c'est ça qui m'intéresse, moi, c'est cette espèce de parole, presque, je dirais, de théorie semi-privée, qu'on élabore pour soi, permet de déterminer un certain nombre de choix personnels, mais qui est semi-privée. Et en cela, je fais souvent cette comparaison, je dirais que l'argent sera preuve de l'amour, des choix qu'on peut faire. Personne n'a de vérité absolue à dire de l'amour et des choix amoureux qu'on peut faire. On a tous nos petites rationalités à cet égard, mais elles ne sont pas tellement éprouvées. Et si on les lance en public, on a souvent l'air un peu nigaud. Mais pourtant, c'est ça qui est intéressant. Enfin, en tout cas, c'est ça qui me passionnait dans l'écriture de ce livre. Cette forme-là de rationalité.
Et alors, dans mes dernières questions, j'ai envie de te poser des questions d'ordre plus théorique, moins émotionnel. C'est de d'où tu parles ? Avec quelle discipline tu parles ? Parce que, bon, ton livre, moi je suis habitué à tes livres, Christophe. Lébertier, par exemple, Portrait statistique, qui était signé de la rédaction, qui était paru il y a plusieurs années, qui est un livre vraiment fantastique. Quand on a déjà lu tes précédents travaux, ton système d'enquête, on n'est pas étonné du tout de ton livre L'Argent. Mais quelqu'un qui tombe sur ce livre-là, qui comprend que ce n'est pas un livre de sociologie, mais en même temps, il est édité aux éditions Amsterdam, ouais, et pas aux éditions Questions théoriques. C'est-à-dire, ouais, qu'il est chez un éditeur qui produit des livres de réflexion politique, qui produit des livres de réflexion dans les sciences humaines. Donc, on pourrait rapprocher l'argent d'un livre d'un quelqu'un qui réfléchit avec les sciences humaines. Mais en même temps, je n'oublie pas que tu agis, tu écris avec le champ poétique. Bien entendu, on peut te considérer comme un poète contemporain également, et puis aussi un théoricien. Alors, avec quelle discipline, avec quel champ disciplinaire écris-tu l'argent ? Ma question est en même temps assez simplette et assez idiote, parce qu'on n'est pas obligé d'écrire à partir d'un champ, bien entendu. Tout ça, ça pourrait être de la littérature, tout ça, ça pourrait être une sorte de mélange entre de la théorie et de la fiction. Mais justement, ce flou peut-être contraint à une forme de précision, et c'est ce que je te demande là.
Ouais, alors, j'ai envie de répondre vraiment un peu comme ça, facilement, à partir d'aucun champ et de tous, parce que, évidemment, moi, les sciences humaines, ça me passionne, et je les lis, j'ai un certain nombre d'auteurs qui me servent un peu de modèle dans leur approche, je sais pas, des auteurs comme Howard Baker, par exemple. Mais, comment dire ? Je pense que cette question, elle vient aussi beaucoup de deux choses. La première chose, c'est qu'on limite beaucoup la littérature à la fiction. Et d'une certaine façon, quand les gens produisent de la fiction, on leur pose jamais la question d'où ils parlent. Parce que d'une certaine façon, ils ne prétendent pas dire de vérité, c'est de la fiction, on ne pourra pas les attaquer. Ou si on le fait, c'est vraiment pour des points très précis d'éventuelle reconnaissance. Mais voilà, c'est de la fiction, donc... On ne pose pas la question. Et puis, on s'est aussi habitué à limiter la poésie à l'expression de l'intime, du personnel, de l'émotionnel propre. Et que donc, d'une certaine façon, c'est comme quand vous dites « j'ai mal » à votre docteur, il va vous dire « d'accord, mais où est-ce que vous avez mal ?» On ne remet pas en question le fait que vous avez mal. C'est le même statut logique, en quelque sorte. C'est un discours où, qui émane de vous, vous avez forcément raison, mais d'une certaine façon, ça ne concerne que vous. Et donc, on va pas poser la question d'où vous parlez, c'est évident. Une fois qu'on a réduit la littérature à ces deux paradigmes, après, la question de d'où vous parlez quand vous faites de la littérature se pose plus, puisque d'une certaine façon, ça concerne pas l'extérieur, ou peu l'extérieur. Tout se ramène à des allégories, en quelque sorte. Et c'est vrai que moi, j'ai cette prétention-là, mais parce que mes modèles, ce sont pas ces modèles-là. C'est pas tout à fait la fiction, et c'est pas tout à fait ce qu'on pourrait très... grossièrement réduire au terme de poésie lyrique. Mes modèles d'écriture poétique, ce serait plutôt des modèles comme ceux de Dante, ou par exemple des écrivains comme Sade, dont la fictionnalité pose problème. Je crois qu'il y a toute une part de la tradition poétique qui a été oubliée, et cette poésie investigatoire, qui fait des enquêtes, des recherches exploratrices, qui commence avec... des auteurs comme Horace, par exemple, ou Ovid aussi, qui se poursuit continue avec des auteurs comme Dante, qui fait quand même clairement une investigation sur ce que c'est que l'autre monde, et qui disent des choses qu'on peut discuter, qui cherchent à produire des effets de connaissance. Alors, ces effets de connaissance, ils ont la valeur qu'ils ont. Quand quelque chose produit un effet de connaissance, est-ce que c'est forcément parce qu'il est validé par une institution, un établissement étatique, quoi, ancré dans le système du savoir d'un État, que c'est ça, j'en suis pas sûr. Je pense que la littérature produit des effets de savoir, peuvent être institutionnalisés, mais quand la littérature les produit, précisément, ces formes de savoir-là sont à un statut flottant. On ne sait pas trop où les mettre. Et puis à un moment donné, un tentacule d'une institution du savoir ou d'une autre, d'un établissement orthodoxe du savoir, va jaillir et attraper cet élément de connaissance-là et le récupérer dans ses propres discours. Et à mon avis, c'est un des rôles majeurs, ça, de la littérature, qui est de constituer des formes de savoir qui vont faire... bouger, discuter, déplacer les formes de savoir établies, ou ce que je veux dire par là, liées à des établissements, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à des déontologies, des méthodologies reconnaissables, etc. C'est pour ça, moi, que j'écris comme ça. Je considère que c'est lié à ce qui pourrait être une des fonctions principales de la littérature. Alors, je cherche à faire quelque chose dans ce sens.
Eh bien, merci beaucoup. Merci, Christophe Hanna. Nous parlions de l'argent qui est paru aux éditions Amsterdam. Merci pour tes réponses, Christophe. Merci beaucoup.
Bonsoir.
Bonsoir.